Catherine avait atteint l'âge de 12 ans. Il ne lui était plus permis de s'aventurer seule dans les rues et sa famille songeait à lui trouver un époux. Deux de ses sœurs étaient déjà mariées, car en somme, les femmes sont destinées au mariage. Mona Lapa se mit donc à parer sa fille et lui ordonna, ce qui est bien italien, de se laver un peu plus souvent, de coiffer joliment ses cheveux et de chercher à plaire aux hommes. Mais Catherine ne voulait pas entendre parler d'eux. Jamais elle ne se mettait à la fenêtre ou sur le seuil de la porte, ainsi que les autres jeunes filles, et ne chantait pas comme elle en travaillant des chansons d'amour. Elle prenait même la fuite lorsqu'un des ouvriers de son père pénétrait dans la pièce où elle se trouvait. « Seigneur Dieu, ils ne sont pourtant pas venimeux !» grondait Lapa. Mais sa fille les fuyait justement comme des serpents. Toutefois, grâce à Bonaventura, sa sœur favorite de Catherine, on réussit à l'ébranler un peu. Il vint un jour où elle consentit à se rendre au bal comme les autres jeunes filles, avec une belle toilette, les joues fardées et les cheveux teints en blond, ainsi que l'exigeait la mode. À cette époque, Sienne était si riche de biens terrestres qu'il y avait fête presque chaque jour en l'honneur des nouvelles mariées, raconte un contemporain de Catherine, le moine Filippo Agasari, dans ses Histoires morales. Si l'on en croit ce sévère prédicateur, les jeunes siennoises n'étaient pas moins frivoles qu'au XIVe siècle qu'au XXe. Il cite le cas d'une jeune fille qui tomba morte pendant un banquet pour s'être trop serrée, ainsi que celui d'une autre dont le visage fut rongé par le fard qu'elle employait. Il parle même d'une troisième qui fut aidée à sa toilette par le malin lui-même, déguisé sous les traits d'une camériste et à laquelle il advint pis encore. D'autres auteurs assurent que les dames passaient des journées entières sur leur terrasse, les cheveux exposés au soleil afin qu'ils devinssent blonds. Cette période mondaine de la vie de Catherine semble avoir été brève. Quoi qu'il en soit, elle prit fin à la mort soudaine de Bonaventura en août 1362. Près du cadavre de sa sœur chérie, Catherine pleura amèrement ce qu'elle considéra par la suite comme une horrible ingratitude vis-à-vis du Seigneur. Ne lui avait-il pas fait don de l'apparence extérieure qu'il lui voulait? Et elle avait cherché à l'améliorer, ainsi qu'on gâche une œuvre de maître. Dieu l'avait créée à son image, et elle avait osé la repeindre et la transformer à l'image du diable. Bien des années après, elle s'accusait encore dans ses confessions de ce temps d'infidélité. Et quand Raymond s'efforçait de la consoler, elle s'écriait « Est-ce donc à mon confesseur d'excuser mes péchés ?» Elle-même était convaincue que l'enfer eût été son partage si elle fut morte dans cet état de frivolité. Animée d'une ardeur nouvelle, la jeune fille reprit sa vie de pénitence et de prière, recherchant la solitude, mangeant fort peu et dormant le moins possible. Ceci ne convenait guère à ses parents, qui depuis la mort de Bonaventura étaient plus désireux encore qu'auparavant de marier Catherine. Car en ce temps-là, plus les familles étaient nombreuses, plus elles étaient puissantes. Il venait précisément de rencontrer un jeune homme d'excellente famille qui serait un mari parfait pour leur fille. Et afin d'avoir raison de l'enfant rebelle qui méconnaissait son propre bien, ils s'adressèrent à Tommaso della Fonte, devenu prêtre, et en août le confesseur de Catherine. Le dominicain se rendit à leur appel. Catherine, ouvrant alors son cœur à son amie d'enfance, lui révéla qu'elle avait fait vœu de virginité et lui déclara courageusement qu'elle ne consentirait jamais à une alliance terrestre. Son cœur, appartenant tout entier à Dieu, ne pouvait donner asile à un amour humain. Tommaso, convaincu, changea d'avis et au lieu de la persuader de se marier, lui conseilla de couper ses cheveux dorés, puisque c'est par cet acte qu'une femme indique qu'elle se consacre au Seigneur. Catherine suivit de ce conseil et posa un voile blanc, comme un voile de religieuse, sur sa tête blonde et rasée. L'appât ne tarda pas à s'étonner du soin avec lequel sa fille conservait ce voile sur sa tête. Enfin, elle le souleva et vit. Une heure pénible suivit cette découverte. La famille Benincasa était en fureur. Tous accablèrent Catherine de reproches et l'assurèrent, avec toute la force du langage et des poumons italiens, qu'elle serait malgré tout contrainte à faire leur volonté. « Tes cheveux repousseront et tu auras un mari, dusses-tu en mourir ?» Le conseil de famille décréta ensuite qu'à l'avenir, Catherine n'aurait plus de chambre à elle, où il lui fut possible de se livrer à ses folies pieuses, et sur ce, la fille de service fut congédiée, afin que Catherine se chargeât de sa besogne. Elle devint alors servante, et une servante qui, à dessein, fut traitée avec malveillance dans l'espoir qu'elle préférerait changer de condition et se marierait. Mais pour supporter cette épreuve, Catherine eut recours à un pieux artifice. Elle se figura qu'elle vivait dans la sainte maison de Nazareth. Son père, religieux et bon, représentait Jésus-Christ lui-même, et sa mère tenait tant bien que mal la place de la Sainte Vierge, tandis que ses frères étaient les apôtres et les disciples du Maître. Elle s'empressait ainsi continuellement au service de son céleste époux. C'était sa voix qui l'appelait pour lui, et elle montait et descendait infatigablement l'escalier en courant. Pour lui, elle préparait les repas à la cuisine, et c'était lui, sa mère et ses amis qu'elle servait à table. Quelque temps s'écoula ainsi, et Catherine ne se rendait toujours pas. Elle était douce mais inflexible. « Il nous faudra y renoncer », se disait entre ses frères. Comme il lui était interdit de s'enfermer dans aucune pièce, son père put un jour, sans qu'elle s'en aperçût, la surprendre agenouillée dans la chambre de Stefano, priant avec ferveur. Au-dessus de sa tête planait une blanche colombe qui disparut à l'entrée de Giacomo. Le père se retira songeur. Une colombe blanche au-dessus de la tête de sa fille? Était-ce possible? Et ne devait-il pas croire que cette colombe était le Saint-Esprit lui-même? Cependant, Catherine caressait toujours son ancien projet d'imiter Sainte Euphrosyne. Déjà, elle s'était coupé les cheveux, et il ne lui manquait plus que de prendre des habits d'homme pour s'en aller au loin, se faire admettre dans un monastère dominicain. Car les dominicains étaient toujours son idéal, aussi bien maintenant qu'elle avait 15 ans que lorsqu'elle était une toute petite fille. Une nuit, en rêve, elle vit tous les saints fondateurs d'ordre, Saint Benoît, Saint Romuald, Saint Bernard Ptolémée, Saint François et plusieurs autres. Mais son regard n'en cherchait qu'un, Saint Dominique. Lui aussi avait les yeux fixés sur Catherine. Et s'avançant vers elle, il lui tendit un habit noir et blanc en disant « Aie confiance, ma fille, ne crains rien, tu porteras un jour cet habit. » Catherine en ressentit une telle joie qu'elle se réveilla. L'habit qu'elle venait de voir était celui que portaient à Sienne les sœurs qu'on appelle les Mantellate. Sans nul doute, ce songe opéra une révolution dans l'esprit de la jeune fille. Elle abandonna son vague et fantastique projet d'entrer dans un couvent de moines et poursuivit dès lors un but plus accessible, puisque dans chaque maison à Sienne, il y avait de ces femmes qui portait les couleurs de Saint-Dominique et appartenait au tiers-ordre qu'il avait fondé. Sa propre tante Agnès, veuve de Michel di Diuccio, en était, et Catherine désirait à son exemple devenir Mantellata. Qui ne connaît cet instant où un grand dessein venant de germer dans l'esprit, on se sent poussé à agir coûte que coûte. Tous les doutes, toutes les hésitations se taisent. Il semble que l'on ne pourra jamais assez promptement réaliser le plan nouveau. C'est sous l'empire d'une résolution semblable que dans la matinée qui suivit son rêve, Catherine réunit les membres de sa famille et leur déclara qu'il leur serait plus facile de fondre une pierre que de l'ébranler dans son dessein. « Je vous conseille donc, dit-elle, d'interrompre vos négociations au sujet de mon mariage, car en cela, il m'est impossible de faire votre volonté, puisque l'on doit obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. S'il vous plaît, de me garder ici comme votre servante. Je resterai de bon cœur à votre service. Et si au contraire, vous voulez me chasser du foyer, sachez que malgré cela, je ne renoncerai jamais à mon projet. J'ai un époux si riche et si puissant qu'il ne me laissera jamais manquer du nécessaire et pourvoira à tous mes besoins. » Un siècle et demi auparavant, saint François avait adressé de telles paroles à sa famille, ce qui avait amené une rupture définitive entre lui et les siens. Mais Gianno Como Benincasa n'était pas un Pietro di Bernardone, et l'esprit qui animait le fils du marchand d'Assise s'était en 5 générations répandu dans le monde entier. L'ange qui portait le sceau du Dieu du vivant, c'est ainsi que saint Bonaventure désigna saint François, avait confirmé des milliers et des milliers d'hommes, et Giacomo était du nombre. Le silence régna dans la pièce lorsque Catherine se tut. Puis, faisant appel à tout son courage, Giacomo dit du plus profond de son cœur : Dieu nous préserve, ma chère fille, de nous opposer de quelque façon que ce soit à sa volonté. Depuis longtemps, nous avions compris que ce n'était point chez toi caprice d'enfant. Nous voyons maintenant que c'est le Seigneur qui te guide. Accomplis donc librement ton vœu et vis selon que l'Esprit Saint t'y engage. Nous te supplions seulement de prier sans cesse pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de ton époux. » Tourné vers Lapa et ses fils, Giacomo ajouta : Que personne n'ose à l'avenir tourmenter ma fille bien-aimée, qu'elle serve son époux en paix et en liberté, afin d'intercéder continuellement pour nous. Pourrions-nous jamais trouver pour elle un époux de plus haut lignage ? Pendant cette période de querelle familiale, Catherine avait construit dans son âme une cellule secrète où personne ne pouvait la chasser et qu'elle résolut de ne jamais quitter, quelles que fussent ses occupations extérieures. C'était ce refuge secret que connaissait aussi François d'Assise et dont il avait dit « Notre frère le corps est une cellule et l'âme est l'ermite qui y demeure. » Mais bientôt, Catherine reçut la promesse de posséder également une vraie cellule extérieure. Dans la maison de Giacomo Benincasa, juste au-dessous de la cuisine, se trouvait une petite chambre ouvrant sur le vicolo del Tiratoio. Catherine, s'apercevant que cette pièce était abandonnée, y installa son ermitage. On voit encore cette cellule de nos jours. Le plancher est exactement au niveau de la ruelle qui passe derrière la maison. La fenêtre est actuellement murée, mais une croix taillée dans la pierre indique aux passants que c'est là la chambre sanctifiée par Catherine. Cette chambre était fort petite, 5 mètres de long sur 3 mètres de large, et carrelée de grandes briques rouges. Il n'y avait guère de place pour des meubles, un coffre où elle serrait ses affaires et un banc. C'était tout. Le banc, dans la journée, lui servait de table, et la nuit, elle s'étendait dessus tout habillée, avec une bûche en guise d'oreiller, ou bien reposait sa tête sur les marches de briques qui servaient à atteindre la fenêtre haut placée. La porte et les volets étant le plus souvent clos, la petite chambre n'était alors éclairée que par la lampe qui brûlait devant le crucifix suspendu au mur. Là, dans l'obscurité et la solitude, Catherine pouvait réellement reproduire les pénitences des anciens solitaires. Depuis longtemps déjà, elle avait cessé de manger de la viande. Elle se refusait à présent toute nourriture tant soit peu délicate. Et plus tard, elle parvint à vivre uniquement de pain et d'herbes crues. À dater de sa 20e année, elle se contenta de prendre de la salade sans pain et avec le temps, se priva même de ce maigre aliment. sa constitution se transforma à tel point sous l'influence de ce jeûne rigoureux que quelques années après, elle ne pouvait plus supporter aucune nourriture. Elle se mortifia encore d'autres manières en portant un cilice qu'elle échangea ensuite contre une mince chaîne de fer serrée autour de sa taille. Caffarini a vu lui-même une des disciplines avec lesquelles se flagellait Catherine. Un crochet de fer y était fixé et elle était noire de sang desséché. Il a vu également la chaîne garnie de petites croix qu'elle portait autour du corps. De même que sa nourriture, elle restreignait de plus en plus son sommeil et finit par dormir à peine une demi-heure en deux jours. Ce fut le plus rude effort que j'ai jamais fait sur moi-même, confessa-t-elle une fois à Raymond de Capoue. Par tempérament, Catherine jouissait d'ailleurs d'une santé florissante et avait toute l'exubérance d'une jeune Italienne. Lapa racontait volontiers que dans sa jeunesse, sa fille avait monté un sac de blé de la rue jusqu'au grenier. Or, cela représentait toute la charge d'un mulet. Mais elle était alors deux fois plus robuste qu'à présent. Les dominicains ont toujours eu une prédilection marquée pour les pénitences corporelles. Saint François avait interdit à ses frères les macérations extérieures et au chapitre général de Portioncule fit réunir tous les cilices et toutes les disciplines pour les brûler. Tandis qu'au contraire, la vie d'un Henri Suzeau, par exemple, depuis sa 8e année jusqu'à la 40e, n'est qu'une succession de tortures qu'il s'infligea lui-même, jusqu'à ce que son corps, étant entièrement épuisé, il se trouva dans l'alternance de céder ses rigueurs ou de mourir. Alors Dieu lui fit comprendre que tout ceci n'était qu'une préparation, que l'anéantissement du vieil homme. Dans sa chambre solitaire à Sienne, Catherine suivait la même voie de renoncement et d'effort que le dominicain allemand dans son couvent de Constance. Elle aussi aurait pu, dans une autobiographie, écrire des pages terribles et belles sur la mortification de la chair et sur la destruction douloureuse du moi. Mais en dépit de tout cela, Catherine n'avait pas encore atteint le comble de ses vœux, porter l'habit noir et blanc. Ses parents lui avaient permis de mener une vie de prière et de pénitence entre les quatre murs de la maison, mais ils ne souciaient guère d'aller plus avant dans leur complaisance. Au fond, Mona Lapa n'avait nullement abandonné l'espoir de guérir sa fille de ses bizarreries. Pourquoi, par exemple, dormir sur une dure planche plutôt que dans un bon lit? Et parfois, Lapa se relevait pour entraîner sa fille chez elle et l'obliger à partager sa couche comme elle est lorsqu'elle était enfant. Mais quand elle s'éveillait le matin, le lit était vide à côté d'elle. Catherine s'était retirée sans bruit. Ou bien, si elle s'était résignée à rester, c'est qu'elle avait trouvé moyen de glisser secrètement une planche ou quelque autre morceau de bois sous les draps. En ce cas, elle s'étendait dessus et priait au lieu de dormir. En soupirant, Lapa finit par céder à son enfant dénaturé. Mais elle témoigna de son indignation par plus d'un gémissement lorsqu'un jour, ayant pénétré chez Catherine, elle l'a vu se flageller de telle sorte que le sang jaillissait. La malheureuse mère se mit alors à pleurer si fort que tout le voisinage l'entendit. Elle poussait des cris sauvages. « Ma fille, ma fille, veux-tu donc te tuer ? Ah, quelle est la puissance qui me ravit mon enfant ! » Puis, fait observer Raymond avec un froid mépris, elle se livrait à toutes sortes d'actes étranges comme de s'égratigner le visage ou de s'arracher les cheveux. Raymond, le moine sévère, pouvait en parler à son aise. Il ignorait ce qu'est un cœur de mère. Simplicissima, Lapa, tu aimais tant ta petite Catherine, l'enfant de ton cœur, la dernière, celle que tu avais nourrie toi-même, le rayon de soleil de ton foyer, la gracieuse Éphrosine, et tu ne comprenais pas pourquoi elle se maltraitait ainsi, et tu sanglotais et t'arrachais les cheveux en voyant couler le son sang, ton sang, et le sang de Giacomo, qui ruisselait des veines de Catherine, et donc chaque précieuse goutte était une goutte de jeunesse, une goutte de vie, une goutte de bonheur, qui, une fois répandue, ne pourrait jamais être reconquise. Ô naïve et sensible Lapa, nous avons pitié de toi, nous te comprenons, nous t'aimons pour ton grand cœur impétueux, ce cœur que tu as transmis à ta fille et qui la faisait si vaillante et si forte. Ni par la violence, ni par la douceur, Lapa n'avait pu avoir raison de Catherine. Elle essaya un troisième moyen des distractions et l'emmena à Viguione, station thermale très fréquentée, située dans la montagne au sud de Sienne, au bord du fleuve Orcia. D'après les écrits de Simone di Giacomo Tondi, datant de 1334, les sources chaudes de Vignum contiennent du fer et de l'aluminium, du cuivre, un peu d'or et un peu d'argent. Elles avaient à cette époque la réputation de guérir très spécialement les maladies de foie, les maladies d'estomac et toutes sortes d'affections nerveuses. Ces bains, dont n'usent aujourd'hui que les paysans des environs, étaient alors très en vogue. On y trouvait de nombreuses hôtelleries et une église s'élevait au centre de la place publique. C'est là que, sous la surveillance maternelle, Catherine devait soigner son corps jusqu'ici maltraité et en venir à des idées plus raisonnables. Elle s'y prêta de bonne grâce, mais supplia qu'on lui permît de se baigner seule, même sans sa mère, et lorsqu'elle en eut obtenu l'autorisation, au lieu de profiter de l'eau tempérée du bassin, elle prit l'habitude de se placer sous le jet brûlant, au risque de s'échauder. Pressée de rendre compte de sa conduite, elle répondit « Je pensais aux tourments de l'enfer et du purgatoire, et je priais mon Créateur de m'épargner les supplices éternels et d'accepter en échange les souffrances que j'endurais. » Lapa rentra donc à Sienne ayant perdu sa cause, et Catherine dévoila pour la première fois à sa mère son intention de devenir Montelata. Elle la tourmenta si bien que celle-ci promit d'aller trouver la prieure des Montelata et de lui soumettre ce projet. Cependant, Lapa revint fort satisfaite de cette visite. La prieure lui avait répondu que les Montelata ne recevaient que des veuves et qu'une jeune fille de l'âge de Catherine ne pouvait être admise parmi elles. Sur ces entrefaites, Catherine fut atteinte de la varicelle, particulièrement grave chez les adultes. Et Lapa, désolée, s'installa jour et nuit au chevet de son enfant malade. Mais comme Catherine refusait toutes les douceurs que lui apportait sa mère, celle-ci finit par s'écrier avec désespoir « Hélas, ne puis-je donc rien pour toi ?» Ce à quoi Catherine répondit avec finesse « Si tu veux que je guérisse, aide-moi à devenir Montelata. Autrement, je suis persuadée que Saint-Dominique fera en sorte que vous ne puissiez me posséder ni sous cet habit, ni sous aucun autre. » Lapa retourna alors chez les sœurs, et le cœur plein de détresse plaida la cause de sa fille. « Si encore elle n'était pas trop jolie, insinua la prieure. « Venez en juger vous-même, répondit Lapa, qui elle aussi savait être diplomate. » La prieure la suivit, et ne trouva pas que Catherine, dont le visage était couvert de boutons, fût d'une extrême beauté. En revanche, elle fut impressionnée de sa piété incontestable. Les autres sœurs furent consultées et il est possible qu'Agnès Benicassa ait pesé sur la décision en faveur de sa nièce. Quoi qu'il en soit, Catherine reçut enfin l'heureuse nouvelle, si longtemps attendue, qu'elle serait admise au nombre des Montelata. La joie qu'elle en éprouva fut si vive que la maladie déclina rapidement et que l'on put fixer le jour de sa réception. Peu avant ce jour, si impatiemment désiré, Catherine eut à soutenir un rude combat. Étant guérie, elle avait échappé aux bons soins de Lapa et repris possession de son austère cellule. Elle y était un soir en prière devant son crucifix. C'était à la tombée de la nuit, à l'heure où l'âme est pleine de désirs qui l'étonnent elle-même. Désirs qui ne se risquent pas au soleil, désirs qui s'évanouissent dès que s'allument les lampes, mais qui prennent leur essor aux confins du jour et de la nuit, tels de sombres oiseaux crépusculaires souvenirs mélancoliques, rêves dangereux. Ce soir-là, dans sa petite cellule enténébrée, Catherine reçut la visite de ses hôtes troublants. Entendit-elle la voix de sa défunte sœur Bonaventura? Se rappela-t-elle le bonheur de la jeune mère entourée de ses enfants joyeux? Ou bien fût-ce le souvenir d'une fête? Revit-elle les étendards gracieusement agités par les jeunes et sveltes Alfieri? Revit-elle la foule en habit de gala rassemblée au Campo sous le soleil de juillet et les estrades ornées de draperies rouges occupées par des dames élégamment vêtues? Toi aussi, Catherine, tu pourrais prendre place au milieu d'elle, murmurait une voix à son oreille. Pourquoi as-tu coupé tes beaux cheveux dorés? Pourquoi portes-tu un cilice sur ton corps délicat? Et pourquoi revêturas-tu dans quelques jours la grossière robe des sœurs? Vois, cet habit n'est-il pas bien plus beau? Et dans la lumière déclinante du soir, Catherine crut apercevoir devant elle un jeune homme svelte et beau, comme un page de la Contrada dell'Orca, qui lui présentait un riche vêtement. Jamais elle n'avait rien vu de plus ravissant. C'était une robe de soie chatoyante, brodée d'or et chargée de perles et de pierres précieuses. Comme ensorcelée, Catherine jeta un regard sur la robe éblouissante et le beau jeune homme qui prenait son silence pour un consentement se préparait déjà à l'en revêtir. Alors Catherine sembla s'éveiller d'un rêve. Elle comprit clairement ce qu'elle était sur le point de faire, et d'un geste rapide repoussa le séducteur et son mirage. La vision extérieure disparut, mais la tentation intérieure persista. C'est comme si jusqu'à ce jour elle eût vécu sans avoir le sentiment des réalités de la vie. Elle avait suivi ses inclinations, uniquement préoccupée d'atteindre son but. Quel bien lui en revenait-il au moment où elle y parvenait? Lorsqu'elle s'était fiancée à Jésus dans son enfance, savait-elle déjà ce qu'elle préférait? N'avait-elle pas écouté uniquement le naïf désir de faire ce qu'enseignaient les prêtres, ce qu'ils disaient être agréable à Dieu et ce que tant de pieuses femmes avaient fait avant elle? Elle avait maintenant l'impression que des voiles se déchiraient successivement devant ses yeux. Elle voyait telles qu'ils sont la vie et le bonheur des hommes, la vie et le bonheur des femmes, et se rendait compte qu'elle allait y renoncer pour toujours. Jamais au pied de l'autel elle ne mettrait sa main dans la main d'un époux. Jamais elle ne quitterait l'église conduite par lui en adressant à ses parents un grave et joyeux salut. Les torches nuptiales ne s'allumeraient jamais pour elle, et jamais lorsqu'elle serait devenue une vieille aux cheveux blancs, elle ne montrerait à ses petits-enfants émerveillés son ancien voile de noces aux fleurs brochées d'argent. Faisant appel à toute son énergie, Catherine s'arracha brusquement à la rêverie qui assaillait son cœur de femme. « Oh, toi, mon bien-aimé, mon unique époux !» s'écria-t-elle en tombant à genoux devant le crucifix. « Tu sais bien que je n'ai jamais désiré que toi seul. Viens aujourd'hui à mon secours. Oh, mon sauveur, fortifie-moi et soutiens-moi dans cette heure difficile. » Le crucifié ne parut pas s'attendrir. Il resta silencieux, les yeux sans regard. Mais on entendit comme le bruissement d'une robe de femme, d'or et de soie, qui frôlait le mur froid, et devant Catherine apparut celle qui est bénie entre toutes les femmes, la patronne de Sienne, la Vierge Sainte et la Mère de Dieu, Madonna Maria. De même que le tentateur quelques instants auparavant, elle aussi portait sur son bras une robe resplendissante, brodée d'or et de perles, étincelante de pierres précieuses. « Cet habit, ô ma fille, dit la mère de Jésus de sa voix douce et tendre, qui fait pleurer tous ceux qui l'entendent, cet habit, je l'ai tiré pour toi du cœur de mon fils. Il était contenu dans sa blessure de son côté, comme dans un écrin doré, et de mes propres mains, je l'ai brodé. » Alors Catherine, brûlante de désir et tremblante d'humilité, inclina sa tête. et la Vierge la revêtit de la céleste tunique.